De vive voix, nos territoires prennent la parole.
Bonjour chers auditeurs. Le 1er janvier 2018, 70% des 1800 agents du siège du Conseil régional d'Île-de-France expérimentaient le télétravail à raison d'un ou deux jours par semaine. Dans la période inédite que nous vivons actuellement, ils sont 99% à être en télétravail. L'évolution des modes de travail a-t-elle eu un impact sur l'agilité de l'administration? Le télétravail est-il un dispositif qui se suffit à lui-même, ou bien faut-il l'accompagner, lui donner du sens? Comment favoriser l'engagement et la responsabilité de ses collaborateurs à distance? Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Scholl, directrice générale adjointe en charge du pôle ressources humaines au Conseil régional d'Île-de-France. Bonjour Fabienne.
Bonjour Frédéric.
Fabienne, pourriez-vous nous présenter l'organisation du télétravail mise en œuvre par le Conseil régional?
Bien sûr. Alors, le télétravail s'est pratiqué au Conseil régional, comme vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2018. Et vous l'avez très bien dit aussi, jusqu'aux épisodes de grève de décembre dernier et de confinement, nous avions à peu près 80% des 1800 agents du siège qui pratiquaient le télétravail 1 à 2 jours par semaine. Nous avons mis en place le télétravail en même temps que nous opérions un changement d'ampleur qui était le déménagement du siège du Conseil régional, des locaux parisiens où on était répartis sur 11 sites différents, et nous avons déménagé en banlieue dans le département de la Seine-Saint-Denis sur un seul site et complètement en open space. Donc c'était évidemment un changement d'ampleur et le télétravail était naturel à mettre en place en même temps, notamment parce que ça rééquilibrait un petit peu le ressenti, si je puis dire, de nos agents qui n'avaient pas très envie de déménager, évidemment, mais qui avaient très envie de pratiquer le télétravail. Alors, à partir de là, nous avons mis un an à le préparer. Nous avons formé à la fois les agents et les encadrants à cette nouvelle pratique. Et nous avons résisté à la tentation RH de mettre beaucoup de règles et de conditions au télétravail, parce que toutes nos études préalables nous montraient que plus on donnait confiance aux agents, plus ils agissaient en responsabilité. Et donc, c'était 1 ou 2 jours de travail par semaine. Qui que ce soit dans la collectivité, pourvu qu'il ait des missions télétravaillables et suffisamment de missions télétravaillables pour remplir une journée ou deux. Et ensuite, beaucoup de souplesse. Donc, pas d'impératif de pointer, si je puis dire, à une heure dite le matin, ni de dépointer le soir. La seule contrainte, c'est d'utiliser sa liberté en vérifiant que ça n'a pas d'impact négatif sur le collectif. Je m'explique, si vous avez un rendez-vous de dentiste, eh bien vous pouvez le prendre le jour où vous êtes en télétravail, si vous avez vérifié en amont que vous ne seriez pas indispensable au téléphone, par Skype ou au bureau, pour une réunion ou pour répondre à des questions. Donc, c'est une question d'organisation, de respect des autres, de transmission aussi de toutes les informations pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse répondre à votre place. Mais si toutes ces conditions sont remplies, alors vous travaillez à peu près quand vous voulez et où vous voulez et comme vous voulez. Et tout cela, c'est une question de définition des objectifs et d'atteinte des objectifs.
Merci Fabienne de cette présentation. Pourriez-vous nous expliquer comment le télétravail a agi en tant que levier de transformation des pratiques managériales dans votre collectivité?
Alors, le télétravail, comme je le disais tout à l'heure, c'était très souhaité par la plupart des agents. 75% des agents avaient répondu à un questionnaire en étant très favorable au télétravail, mais les encadrants, et en particulier les encadrants de premier niveau, étaient particulièrement réticents, parce qu'on leur demandait de bouleverser complètement toutes leurs habitudes. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place toute cette formation et des échanges entre pairs, et c'est peut-être ça qui a été le plus efficace finalement. Nous avons créé un réseau de tous nos managers, les 250, que nous appelons désormais le campus des cadres, et qui a bien sûr perduré à simplement la mise en place et l'organisation du télétravail. Et ce sont les managers entre eux, avec bien sûr de l'accompagnement, mais qui ont défini leur nouvelle posture et qui ont écrit ensemble leur charte managériale, qui repose sur 4 valeurs fondamentales, l'autonomie, la confiance, la responsabilité et le sens du collectif. Et donc, ils sont passés naturellement et en tout cas volontairement d'une posture de contrôle à vérifier que tout le monde est à l'heure et a ouvert son ordinateur à 9h, etc., à une posture complètement différente d'animation et bien sûr de répartition de la charge de travail et donc de la fixation des objectifs de chacun. Désormais, le rôle premier du manager, c'est de fixer des objectifs et de faire en sorte que les équipes aient tout ce qu'il leur faut pour pouvoir atteindre ces objectifs.
Oui, nous sommes passés du contrôle des tâches vers l'animation des équipes.
Absolument. C'est ça, nous sommes passés d'un rôle de contrôle des tâches à un rôle d'animation des équipes et de vérification, bien sûr, que le travail est fait en qualité. Mais au lieu de vérifier que le travail se fait, si je puis dire, le manager contrôle maintenant que le travail est bien fait. Et donc, on n'est plus dans le comment, on est dans le résultat. Voilà.
Oui, tout à fait. On est passé en quelque sorte d'une posture du cadre de manager à leader.
Oui, alors bien sûr, après ce sont des termes RH et on peut mettre bien sûr des définitions un petit peu différentes sur chaque thème, mais je crois que oui, c'est ça.
Alors, est-ce que le télétravail a induit par définition une déconcentration de la prise de décision? Comment a-t-elle été vécue? Et comment a-t-elle vécue aujourd'hui?
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que quand on est en télétravail, on est responsable, mais on n'est pas indépendant. Et je crois que c'est vraiment très très important de bien faire comprendre ça à toutes les équipes, à la fois les managers et les agents. L'intérêt du télétravail, c'est que chacun sache exactement quel est son périmètre d'action. À l'intérieur de son périmètre d'action, il agit en autonomie. Il sait qu'il peut prendre telle et telle et telle décision. Mais il sait aussi que son autonomie a une limite et qu'au-delà de cette limite, il ne peut prendre aucune décision seul, il doit en référer à sa hiérarchie, etc. C'est extrêmement important de bien faire comprendre ça, sinon, évidemment, on arrive dans la désorganisation, la cacophonie et la perte de tous les repères. Mais une fois que, en revanche, ce cadre est bien défini et bien compris par chacun, alors tout devient possible parce que chacun sait exactement tout ce qu'il peut faire en autonomie, seul, et du coup devient beaucoup plus créatif. Et du coup, on est beaucoup plus efficient.
Avez-vous, au Conseil régional, évalué l'impact du télétravail par des indicateurs tels que la productivité, le stress des collaborateurs, l'engagement, la prise de responsabilité des agents?
Alors, la question des indicateurs est toujours extrêmement épineuse. Alors, ce que je peux vous dire en toute transparence et en toute honnêteté, c'est que bien sûr, nous faisons une enquête annuelle sur le télétravail et nous avons des taux de réponse excellents. Et ces enquêtes, deux fois de suite, ont donné des taux de satisfaction qui étaient quasiment staliniens, puisqu'on arrive à 95% des agents, 98% si on comprend ceux qui disent qu'ils sont satisfaits, mais pas extrêmement satisfaits. Donc vraiment, la quasi-totalité des agents qui sont satisfaits du travail réalisé en télétravail. Ils sont satisfaits à la fois sur la notion d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, à la fois sur la notion de maintien du contact avec les équipes et de relation avec leur manager, et ils sont satisfaits sur la qualité du travail qu'ils produisent et la quantité de travail. Alors, ça nous rassure évidemment et ça nous fait extrêmement plaisir. Et évidemment, puisque c'est tellement positif, on émet des doutes et on se demande, puisque c'est du déclaratif, si on n'aurait pas d'autres moyens pour évaluer de façon parfaitement objective ces résultats du télétravail. Alors, c'est toujours, comme je le disais, difficile de trouver vraiment la manière la plus scientifique et objective de trouver des indicateurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à la fin de l'année 2019, en Île-de-France, nous avons subi des grèves de transport massives qui nous ont obligés déjà à nous organiser en télétravail à 98%. Et ça a duré 6 semaines. Eh bien, En 2019, nous avons atteint tous nos objectifs et nous avons dépassé nos objectifs de fin d'année, y compris dans des choses extrêmement quantifiables et donc vérifiables comme les mandatements, etc. Nous avons pu tenir notre séance budgétaire dans des conditions absolument identiques à précédemment. Nous avons pu répondre aux 400 amendements sur la séance budgétaire. Tout ça, ça a été fait en temps, en heure et en qualité. Donc, on est en capacité de dire que le télétravail ne nous a pas freinés, bien au contraire, dans l'atteinte de nos objectifs. Et je dois dire que pendant cette période de la grève, j'ai eu un nombre de témoignages absolument faramineux d'agents que je remerciais de leur engagement, parce que je voyais que de semaine en semaine, tout le travail était fait et les indicateurs que nous avons été atteints, voire dépassés. Donc, à l'occasion, chaque fois que j'étais en contact avec un agent, je remerciais et ils me répondaient tous. Mais on a une chance extraordinaire de ne pas avoir à subir cette grève des transports, c'est-à-dire de ne pas être obligé de passer 4 heures par jour à essayer de venir au bureau et à essayer de rentrer chez soi. Et bien sûr que du coup, eh bien, on donne tout ce qu'on a et on fait tout ce qu'on peut pour que le travail soit fait magnifiquement. Et donc, c'est ça la leçon du télétravail. Le télétravail, c'est donner confiance aux agents. Et dès qu'on donne confiance aux agents, on est surpris de à quel point ils sont prêts à déplacer les montagnes. Voilà.
Alors, sans transition, quel lien entre le télétravail et les applications collaboratives, les outils digitaux, de façon à ne pas être sur un mode de management, je dirais, loin des yeux, puisqu'effectivement, nous sommes à distance. Quelle place pour ces outils collaboratifs?
Alors, tout d'abord, évidemment, le télétravail est indissociable de la digitalisation et de la numérisation. Encore une fois, au conseil régional, nous avons vraiment fait tout en même temps. Hein. On a déménagé, on a dématérialisé et on est passé en télétravail. On a changé tous les outils de 100% de nos collaborateurs en même temps. On a dématérialisé typiquement au RH nos 12 000 dossiers agents. Voilà, on a fait tout cela en même temps parce que vous ne pouvez pas emporter vos parapheurs dans les transports en commun. Et donc, si vous voulez télétravailler, il faut nécessairement être en mode complètement dématérialisé. Et c'est pour ça que, bien sûr, les épisodes de grève ou de confinement que nous traversons sont indolores pour nous sur la partie rendement, efficience et travail. Après, la difficulté que nous rencontrons en ce moment, c'est que c'est du 100% télétravail, c'est-à-dire 100% sur la semaine. Vous n'êtes pas une journée ou deux de télétravail, mais 5 jours sur 5, et que ça dure. Donc, il faut évidemment faire très attention à ne pas perdre nos agents et à ce qu'ils n'aient pas un sentiment d'isolement. Lors de la grande grève, on s'était rendu compte qu'au bout de 10 jours, il peut y avoir un sentiment d'isolement qui se fait ressentir. Et donc, on a renforcé à l'occasion du confinement toute la boîte à outils que nous avons donnée à nos encadrants pour les aider à acquérir des petits rituels, des trucs, des moyens de faire en sorte que chacun puisse se sentir pleinement associé dans le collectif du travail, bien que ce soit à distance. Alors, ces outils, ça peut être simplement de l'animation, des méthodes pour animer des réunions. Donc, comment préparer la réunion quand elle est à distance, sans doute la tenir de manière plus courte, parce que on est plus concentré quand on est en télétravail à distance. Et donc, 45 minutes, c'est le grand maximum. Libérer la parole aussi et faire peut-être le contraire de quand on est en présentiel où on a tendance à perdre trop de temps au début à parler de choses et d'autres. Quand on est éloigné, c'est important d'avoir ces petits interstices de communication qui ne sont pas totalement focalisés sur le travail. Des icebreakers, comme on dit, donc des trucs pour demander comment va chaque personne au début de la réunion, bien rappeler à la fin de la réunion toutes les décisions qui ont été prises, etc. Et puis, nous avons aussi incité nos managers à utiliser des outils collaboratifs qui leur permettent d'organiser les tâches, parce que la charge mentale pour les encadrants dans cette période est vraiment décuplée. Parce que ils ont bien sûr souvent à vivre le confinement avec leur famille, et donc les difficultés du télétravail avec la garde d'enfants, c'est extrêmement compliqué. Ils ont aussi à maintenir le moral de leurs équipes qui peuvent être extrêmement inquiètes parce que touchées par la maladie ou autre. Ils ont aussi évidemment leurs propres inquiétudes vis-à-vis de leurs proches, de leurs parents, etc. Donc, nous vivons une période particulièrement difficile, et il y a un outil, par exemple, collaboratif qui s'appelle Trello, qui permet d'organiser les tâches et qui est un outil collaboratif qui donc peut aider les encadrants à partager la charge de l'organisation du travail au sein d'une équipe. Et donc, nous avons remarqué que nos encadrants étaient particulièrement intéressés par cet outil et que petit à petit, ils le mettent quasiment tous en place. Voilà.
J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous organisez actuellement avec vos collaborateurs des ateliers de retour d'expérience du déploiement du télétravail auxquels participent des DRH du public et du privé. Quels sont les points principaux qui en ressortent en matière de stratégie de la politique ressources humaines ?
Alors, on s'est rendu compte que, en fait, en ce moment, il y a beaucoup d'organisations publiques et privées qui découvrent un petit peu le télétravail et qui découvrent le télétravail de masse. Et donc, on s'est dit que peut-être que notre expérience de 2 ans et un peu plus de télétravail, et aussi notre expérience francilienne de la grève de décembre où nous étions à 98% en télétravail sur une longue durée, pouvait intéresser d'autres organisations. Et donc, on a simplement proposé cela et on s'est rendu compte que voilà, beaucoup de DRH en particulier étaient intéressés. Et donc, nous avons renouvelé cette expérience dans une philosophie simplement de partage. Vous savez qu'on pratique beaucoup l'open source. Et puis, voilà, c'est notre petite pierre à nous, RH, si on peut aider les franciliens, mais toutes les organisations au-delà, avec simplement les conseils que nous pouvons apporter simplement du fait de notre propre expérience, eh bien, on considérait que c'était notre devoir de le faire. Mais au-delà, je pense que, au-delà de simplement notre retour d'expérience sur le télétravail, toute notre philosophie RH à la région Île-de-France, c'est vraiment l'encapacitation de tous nos agents. C'est-à-dire que nous croyons vraiment sincèrement que l'agent qui fait est celui qui sait le mieux comment améliorer les process, comment être plus efficient, comment mieux accomplir sa mission au service des administrés. Et donc, tout ce que nous essayons de faire, c'est de faire prendre conscience à chacun que quelle que soit sa place dans la hiérarchie et quelle que soit sa place dans l'organisation, il a un rôle crucial à jouer. Et quand chacun prend conscience de cela, eh bien, il prend aussi conscience que sa parole peut avoir un intérêt pour d'autres, et que sa parole a une valeur, et que sa parole peut être partagée. Et c'est ce que nous avons mis en place donc dans toute la collectivité. Hors période de grève ou de confinement, nous le faisons à l'usage même de nos propres agents, c'est-à-dire que nous demandons dans tous les services des agents volontaires, en dehors de tout système hiérarchique, de venir s'exprimer et expliquer aux autres, et c'est ouvert à qui veut venir, d'expliquer ses missions et comment il les accomplit. Voilà, donc c'est la prise de parole en public, mais c'est aussi, ça incite tous les agents qui font cela à s'interroger sur leur travail et à le mettre en forme et à l'expliquer aux autres. Eh bien, ce que nous faisons en interne, en continu, sur toute l'année, là, nous avons décidé de le partager aux autres dans ce contexte tellement difficile du confinement à cause du COVID-19.
Bien sûr. COVID-19. À ce sujet, dans le partage d'expérience, d'ailleurs, j'ai vu que vous avez réalisé dernièrement, il est sorti la semaine dernière, me semble-t-il, un guide du télétravail pour les franciliens. Je sais que vous aviez un guide interne déjà pour vos collaborateurs, mais là, vous avez sorti un guide téléchargeable sur réseaux sociaux. Pourriez-vous nous en présenter la genèse et le contenu en quelques mots, s'il vous plaît ?
Bien sûr, Frédéric. Et bien justement, c'est ce guide du télétravail à l'usage des Franciliens, c'est un petit peu la concrétisation de tout ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avons appris en marchant, bien sûr, nous avons donc mis en place le télétravail en 2018, nous avions rédigé à l'occasion un guide des bonnes pratiques, pourquoi le télétravail, parce que ça c'est potentiellement une amélioration de la qualité de vie au travail, mais aussi de la qualité du travail lui-même, et comment on le met en place, eh bien la règle clé, c'est vraiment l'anticipation, c'est-à-dire de séquencer ces tâches, réserver pour le travail à la maison les tâches qui demandent de la concentration et réserver pour le bureau les tâches qui demandent de la communication et donc de l'interaction. Mais aussi, quand on est en télétravail, il ne faut pas négliger les aspects physiques, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier qu'on a un environnement de travail propice pour avoir une bonne posture, une bonne tenue, parce que sinon ça pourrait on pourrait avoir mal au dos, mal au cervical, etc. Donc, on a mis en place tout un petit guide pour faire des exercices d'assouplissement, etc., pour vérifier que on est en forme, même en télétravail. Et puis, il y a aussi toute une partie sur les outils qu'on peut mettre, qu'on peut appliquer pour animer le collectif à distance. Et alors, on avait fait ça petit à petit et justement, à l'occasion du confinement, et puisque on nous demandait un retour d'expérience, eh bien, nous sommes réappropriés ces outils et nous les avons condensés. Nous avons pris le meilleur de chaque partie pour en faire un guide à usage de tout le monde. Et on en a profité pour mettre chaque fois un petit peu des exemples de nos propres pratiques, nous, agents franciliens. Et donc, ça a eu un effet extrêmement bénéfique pour nous-mêmes parce que chacun s'est réinterrogé et puis nos agents ont redécouvert à cette occasion évidemment le guide du télétravail et donc ont pu reprendre un petit peu toutes les bonnes pratiques de chacune de ces trois parties. Et puis en même temps, ça nous a permis de le diffuser au plus grand nombre. Et donc si ça peut être utile et rendre service aux uns aux autres, pourquoi pas.
Un grand merci de ce partage. Notre émission, Fabienne, touche à sa fin. Une dernière question. Qu'en est-il de la routine ? Les rituels managériaux que vous recommandez dans votre guide du télétravail pour les Français notamment, je pense, alors à titre d'anecdote, à la pause café virtuelle.
Oui, alors en fait, paradoxalement, le télétravail peut avoir un effet collatéral négatif qui est le recloisonnement, si je puis dire. C'est-à-dire que quand vous êtes en télétravail, vous êtes extrêmement focalisé, je vous l'ai dit, en tant que manager, par l'animation de votre propre collectif. Vous avez une obsession, si je puis dire, c'est que personne ne soit isolé, qu'il y ait bien un contact journalier avec chacun et que il n'y ait pas d'interrogation des uns et des autres sur ce qui doit être fait, comment, etc. Et du coup, quand cela dure, vous pouvez vous sentir un petit peu enfermé, puisque tout votre espace, finalement, est occupé par votre propre équipe à vous. Et donc, recréer des moments de contact fortuit, informel, et où on parle d'autre chose que de simplement la tâche du moment, ça peut être extrêmement bénéfique, c'est une respiration, et c'est même très important de le faire. Et donc, nous préconisons en effet le café virtuel, c'est-à-dire nous invitons au-delà de l'équipe directe, sur un moment, par téléphone. On peut mettre la visio, mais en général, quand on est très nombreux, on reste en mode de téléphone. Et là, il n'y a pas d'ordre du jour. Et là, on discute les uns avec les autres de tout ce qui nous passe par la tête. Et c'est extrêmement agréable et bénéfique. C'est-à-dire, c'est recréer l'informel et le spontané. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'innovation, la créativité, ça passe par la rencontre fortuite. Et donc, un des risques de ce confinement, c'est justement de ne plus avoir suffisamment de ces moments où on se rencontre et on échange. Et de l'échange vient l'innovation. Et donc, ce café virtuel, c'est un petit peu le café pour retrouver la créativité et l'innovation.
Oui. Fabienne, un très grand merci de votre témoignage. Les travaux réalisés par votre administration et le fait que vous nous en fassiez partager aujourd'hui revêtent une importance toute particulière en cette période exceptionnelle. Vraiment, je me permets de vous souhaiter beaucoup de bonnes choses et un très très grand merci de votre témoignage. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission ou la télécharger sur le site radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci à vous.
De vive voix, nos territoires prennent la parole.